À l'occasion de ses 40 ans, Reporters sans frontières a investi ce 15 novembre la salle de spectacle de la Gaîté Lyrique pour accueillir le festival Informer le monde de demain. Au programme, conférences, expositions, photos, concerts. Dans les allées du festival, on croise photographes, journalistes ou simples curieux. Au milieu de cette foule, une figure familière de RSF, Anne Boucandé, directrice éditoriale de l'organisation. Elle orchestre les enquêtes, les classements, les alertes. Aujourd'hui, elle nous rejoint pour revenir sur ses 40 ans de combat.
Bonjour, donc moi je suis Anne Boucandé, journaliste et directrice éditoriale de Reporters sans frontières, donc c'est-à-dire que je chapeaute toute la rédaction de Reporters sans frontières et l'équipe des journalistes, puisqu'on a aujourd'hui à Paris 14 journalistes qui sont soit spécialisés sur une zone géographique, soit spécialisés sur des sujets thématiques. Donc on a une cellule investigation, une cellule tech, data, des équipes qui travaillent sur l'Asie du Sud, des équipes qui travaillent sur la Russie, sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient. Donc ça c'est toute l'équipe des journalistes qui vont alimenter au quotidien notre site d'information en ligne en 2 à 11 langues. Donc on publie une trentaine de contenus par semaine sur l'actualité de la liberté de la presse et du droit à l'information à l'international. Donc ça va de l'initiative en ce moment à Belém d'une déclaration pour l'intégrité de l'information et la protection du journalisme environnemental. Donc en ce moment on a une équipe à Belém qui a suivi ça, en même temps que là d'être aussi sur le pont sur les réactions de différentes exactions dont on a pu avoir connaissance, qui se passe actuellement aux Seychelles, au Niger ou dans d'autres parties du monde. Donc vraiment le travail de direction éditoriale, c'est le travail de la rédaction en chef, si vous voulez, de piloter la rédaction de l'équipe de RSF.
Est-ce que chez RSF, vous produisez du contenu qui peut intéresser le grand public? Est-ce que du coup, dans ce contenu journalistique, oui, vous proposez quelque chose qui, un peu comme des médias traditionnels, est-ce qu'il y a une partie comme ça aussi?
Notre site d'information est accessible au grand public et est d'ailleurs très consulté de plus en plus aussi par le grand public. Donc c'est vraiment comme on peut avoir des médias spécialisés pour lire l'actualité à travers le monde culturel, à travers l'actualité culturelle. RSF regarde le monde et l'actualité à travers le prisme de la liberté de la presse. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut comprendre un peu quel est le contexte social, politique au Mexique. Nous, on le regarde à travers la dangerosité que c'est aujourd'hui de pratiquer le métier de journaliste au Mexique. Et par exemple, là, depuis le début de l'année, il y a plus d'une dizaine de journalistes qui ont été tués au Mexique, des journalistes d'information locale qui travaillent sur des affaires de corruption notamment. Et donc, ça raconte quelque chose à la fois de la problématique de la corruption au Mexique, de la problématique de l'accès à l'information. Quand on voit le niveau de dangerosité, ça raconte aussi comment travaillent les journalistes au plus près de l'information dans ce pays-là. Donc c'est vraiment de l'information au grand public quand on veut lire de l'information, de l'actualité internationale par le prisme de l'accès à l'information. Et donc notre contenu existe sur notre site internet, accessible du coup jusqu'à 11 langues, et donc français, portugais, espagnol, arabe, mandarin, russe, ukrainien. Voilà. J'en oublie, persan, hébreu aussi sur certains contenus, là bientôt en Haoussa et en Swahili aussi sur certains contenus. Et on produit aussi du contenu décliné sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc, voilà.
Revenons aux bases. Qu'est-ce que donc RSF, quelles sont ses missions?
Donc Reporters sans frontières a 40 ans cette année, et donc l'enjeu c'est véritablement la protection de la liberté de la presse et du droit à l'information. Quand on dit cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on informe, donc le volet plutôt information que je pilote à la direction éditoriale. On plaide, c'est-à-dire qu'on est aussi sur le volet advocacy, donc c'est-à-dire tout ce qui est plaidoyer public, plaidoyer juridique quand il s'agit de soutenir des journalistes qui sont entravés d'une manière ou d'une autre, ou même d'aller par exemple faire en sorte que certaines législations changent pour être plus protectrice du droit à l'information, sur la régulation des plateformes. Tout ce travail-là, c'est aussi le travail de Reporters sans frontières, un travail de soutien direct aux journalistes qui sont empêchés, donc du soutien d'urgence. Ça peut être du soutien d'urgence à de la relocalisation quand des journalistes doivent quitter un pays ou un territoire et être relocalisés en urgence parce qu'ils craignent pour leur vie, que ce soit de la fourniture de matériel et d'équipement de protection quand il s'agit de couvrir des zones de conflit. Donc ça, c'est toute la partie soutien. Et puis on a aussi une partie innovation, c'est-à-dire qu'on est aussi acteur de solutions. Et par exemple, face à la censure aujourd'hui que subit la population russe en Russie, nous on propose un accès satellitaire avec un accès à des sites, à des médias, des chaînes YouTube qui sont interdites en Russie et qu'elles puissent continuer d'être accessibles via un accès satellitaire. Donc ça c'est quelques-uns des projets et du volet du coup aussi action de RSF. Donc c'est vraiment à 360 entre information, plaider, créer des solutions aussi et soutenir.
Vous avez des exemples d'avancées concrètes que vous avez pu obtenir auprès d'États ou d'instances dirigeantes ?
Tellement, parce que 40 ans d'histoire en quelques succès, ça va être difficile. Il y en a énormément, peut-être, en tout cas, par exemple, je peux parler du fait qu'on a contribué, parce que dans les années 90, donc quand RSF est né, il y avait cet enjeu de faire reconnaître la question de la protection des journalistes comme un enjeu spécifique, notamment lors de la couverture de zones de guerre. Et donc RSF a contribué notamment à la résolution qu'on appelle 22-22, qui est une résolution du droit international qui spécifie... vraiment stricto sensu que il incombe aux belligérants de protéger les journalistes sur le terrain. Alors on voit que ce droit est bafoué, mais c'est aussi en raison du fait que ce droit existe qu'aujourd'hui on peut l'opposer à des responsables politiques pour les mettre devant leurs responsabilités et les poursuivre aussi aujourd'hui, notamment devant la Cour pénale internationale, par exemple. Après, d'autres succès qui ont succédé à des drames, mais on a contribué à RSF, par exemple, à l'évacuation de plusieurs journalistes, de dizaines de journalistes afghans au moment de l'arrivée des talibans. On a aussi contribué à la libération d'un certain nombre de journalistes qui ont pu être otages ou emprisonnés dans certains pays au fil de notre histoire. Je pense à Jeanne Dondar en Turquie, mais aussi à Olivier Dubois il n'y a pas très longtemps au Mali. Donc ça fait partie de ce type de réussite. Et puis il y a les autres aussi types de réussite qui sont par exemple la création d'une norme qu'on appelle la JTI, c'est la Journalism Trust Initiative, qui est une norme type ISO, qui est un certificat de fiabilité de l'information pour que les médias puissent être davantage identifiés, notamment dans les plateformes, comme des médias d'information fiable face à la désinformation. Et donc ça, c'est une norme qu'on développe depuis quelques années. Aujourd'hui, on a plus de 2000 médias qui sont rentrés dans ce processus-là. Donc ça fait partie de ce genre de à la fois d'initiatives et de victoire qui sont encore une fois ici aussi plutôt à 360, à la fois de l'urgence, ou alors quand on parle aussi d'avoir contribué à exfiltrer des journalistes, notamment une journaliste russe, peut-être vous vous souvenez, la journaliste à la pancarte, Marina Oslanikova, qui au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie avait mis une pancarte dans son journal télévisé No War, et donc cette journaliste était à l'issue de cet happening de contestation de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, sa vie était en danger, elle a fui la Russie et RSF a fait partie des acteurs qui l'ont aidé en tout cas à pouvoir se mettre sous protection.
La norme GTI, est-ce que ça s'applique aussi à des médias en ligne ? Est-ce que c'est un travail qui aussi est fait sur les réseaux sociaux ?
La GTI est en effet une certification qui s'applique aussi pour les médias en ligne. RSF essaye en tout cas de vivre avec son temps et comme le journalisme s'adapte aussi aux usages et aux pratiques du journalisme à travers le temps. Et donc en effet, la GTI est faite pour les médias. En fait, c'est vraiment un enjeu d'un certain nombre de règles éthiques, mais surtout aussi de cadre de production de l'information. D'abord, c'est un rapport d'auto-transparence, donc c'est-à-dire que c'est les médias qui eux-mêmes déjà se jugent en tout cas sur leurs pratiques, leurs conditions d'exercice, etc. Et après, il y a tout un travail avec des certificateurs externes et ensuite, il y a une labellisation. Donc en effet, c'est aussi pour les médias en ligne. D'ailleurs, un grand nombre de médias, il y a des radios, des médias en ligne, des journaux, des médias publics aussi, comme Radio France qui sont aussi notamment certifiés, France Télé aussi. Donc oui, c'est vraiment pour l'ensemble du spectre des médias à travers le monde.
Justement, pour parler de notre temps, quelle utilisation vous faites, vous, au sein de RSF, de l'IA ? Est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien pour travailler ?
C'est une question qui vient d'émerger aussi sur la table de ronde tout à l'heure. La question de l'intelligence artificielle à RSF, elle a été posée depuis déjà un certain nombre d'années. On a été à l'initiative d'une charte de Paris sur l'intelligence artificielle et le journalisme, où nous, ce qu'on a identifié à ce moment-là, c'était véritablement l'enjeu et de la transparence et de la régulation aussi des entreprises d'intelligence artificielle, notamment sur la question, toujours pareil, de à la fois la redistribution des revenus, des ressources, et à la fois... La question de la fiabilité de l'information. Donc aujourd'hui, on reste à cet endroit-là, dans le sens où on considère que c'est une opportunité. C'est-à-dire que le journalisme, quand on entend Pierre Aski, il y a quelques minutes, parler de... Il a commencé son métier où il écrivait à la main, il envoyait en morse sur les bateaux. Voilà. Donc on voit bien qu'on s'adapte aussi et on a aujourd'hui cette capacité de regarder quand même le monde aussi journalistique avec ses évolutions et notamment ses évolutions techniques et technologique, et l'IA en fait partie. Mais il y a véritablement une grande urgence sur laquelle nous, on est positionné, c'est la question de la régulation. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est aussi... ça fait partie, en tout cas, de la guerre de l'information, l'usage de ces... et on a sorti d'ailleurs une enquête il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle, ben, en tout cas un des outils d'intelligence artificielle chinois, dont j'ai pas le nom en tête là, c'était DeepSeek. Je crois qu'il y a DeepSeek et un autre, et où en fait on a fait une enquête sur leur utilisation, et donc ce qui disparaissait comme information quand tu pouvais chercher RSF, Taïwan, Jimmy Lai, qui est un des journalistes emprisonnés. Donc c'est aussi ne pas être dupe du fait qu'aujourd'hui le fait qu'il n'y ait pas de régulation fait que c'est entre des mains qui peuvent être idéologisées, et où on n'a pas complètement toute la mesure, en tout cas, de dans quelle mesure ce qu'on a comme information qui provient de ces outils-là est vérifié et vérifiable.
Est-ce que c'est un outil que vous utilisez, l'IA, et si vous avez des exemples, la façon de travailler avec ?
L'usage aujourd'hui qu'on en a, et celui d'un certain nombre de rédactions, c'est plutôt sur les usages d'aide à la traduction, parce que nous, on travaille dans plein de langues. Donc ça va être plutôt là, on teste, parce que ce n'est pas du tout systématisé, mais de tester la traduction en direct dans des réunions, par exemple, puisque nous, on travaille avec des équipes multilingues. Et donc, où aujourd'hui, en fait, il y a l'enjeu de se comprendre en direct, live. Donc on teste par exemple ce genre de choses sans encore une fois le systématiser pour le moment. On teste aussi en effet sur la traduction DeepL, aussi sur un usage mais plutôt sur du premier jet de traduction, mais on travaille toujours avec des traducteurs et évidemment des chefs d'édition et de tout le process actuel de la chaîne du journalisme, quoi. Mais en effet, sur certains de ces usages là notamment, beaucoup plus pour la question de l'interprétariat et de la traduction chez nous.
Depuis 2002, vous publiez le classement mondial de la liberté de la presse. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça correspond.
Alors, le classement mondial de la liberté de la presse est un classement qui donc donne un état des lieux de la liberté de la presse pays par pays, en fonction de 5 critères qui pour nous définissent la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'un journaliste puisse exercer son métier sans entrave, quelle qu'elle soit, d'ordre légal, social, politique, sécuritaire et économique. Et donc à partir de ces 5 critères-là, à l'issue de toute une consultation d'experts et de journalistes spécialisés dans chaque pays, plus du monitoring quotidien que l'on fait grâce à notre baromètre, on va pouvoir faire un classement donc des pays et in fine aussi d'un état des lieux global de la liberté de la presse. Donc c'est véritablement à ça que sert cet outil-là, à pouvoir en effet avoir une appréciation un peu plus fine, parce que souvent on pense à la question de la liberté de la presse par le volet sécuritaire, est-ce qu'un journaliste a été tué, détenu, pris en otage, disparu, mais il est important aussi de mettre aussi en perspective avec tout ce qui est la faillite économique des médias, la précarisation du journalisme, dans quel environnement social est-ce que les journalistes sont dénigrés, est-ce que les journalistes ont des lois qui les protègent ou au contraire qui sont utilisées pour les entraver. Donc ça nous permet aussi de dresser ce panorama très avec un peu plus de granularité quand on parle de liberté de la presse.
Justement, la France qui est 25e et qui a perdu trois, quatre places depuis l'année dernière, est-ce que justement c'est parce qu'il y a plusieurs critères qui sont pris en compte qui fait qu'on n'est pas si bien classé ? Et déjà, est-ce que c'est inquiétant ce classement ? Est-ce qu'on peut s'en inquiéter ?
La France est en effet 25e au classement mondial de la liberté de la presse 2025. Clairement, on n'est pas les champions, ce qui signifie qu'il y a un certain nombre de défis et de challenges à relever en France, même si on reste quand même dans le quart, voire on est quand même plutôt en haut du classement. Mais en effet, il y a des points d'attention. Nous, on les a identifiés sur la question de la concentration des médias. Encore une fois, la question de la concentration des médias, il ne s'agit pas de signifier que la concentration des médias est mal par essence. La question, c'est quand les médias sont concentrés entre les mains d'actionnaires dont les intérêts pourraient ne pas mettre la question de l'information d'intérêt public et général au premier plan. Donc ça, c'est un point d'inquiétude. La question des violences contre les journalistes qui couvrent certaines manifestations est aussi un point d'inquiétude. On a vu aussi avec l'arrestation d'Ariane Lavrieux que le sujet de la protection des sources n'est pas complètement protégé, pas suffisamment en tout cas à notre point de vue. Il y a aussi la question du dénigrement de certaines forces politiques à l'encontre des journalistes et du journalisme. Et puis enfin, il y a la question de la fragilisation, en tout cas la non-stabilisation des financements des médias publics en France, parce que c'est un sujet qui revient sans cesse, comme une, un peu comme une menace quand même de quelque chose qui n'est pas assuré et qui donc pourrait aussi être mis à mal. Et alors que, et là il y a d'ailleurs la loi, la législation européenne signifie bien, qui est rentrée en vigueur le 8 août dernier, qu'il y a un enjeu pour les États de pérenniser, de stabiliser les médias publics et d'assurer la soutenabilité aussi économique et le développement des médias publics. On voit en France que c'est un sujet qui est toujours sur la table et qui est pas du tout, qui est loin d'être stabilisé en tout cas.
Kedei op zu geben Covid, dem Onding von die alle Verschnittene. Kedei op zu geben Covid, dem Onding von die alle Verschnittene.
Mosen wir abhauen, damit sich ein Choben mannack will. Mosen wir abhauen, damit sich ein Choben mannack will.
Wir müssen verhitten dem Genozid.
Und stets in dem palästinischen Gerangel zu bekommen sehr Freiheit. Und stets in dem palästinischen Gerangel zu bekommen sehr Freiheit.
Und so machen es auf zu der Apartheid. Und so machen es auf zu der Apartheid.
Wir müssen verhitten dem Genozid.
Mit der Meglichen dos Chorev machen von Gaza. Mit der Meglichen dos Chorev machen von Gaza.
Kann man nicht verweinen, die Ungekommene. Kann man nicht verweinen, die Ungekommene.
Wir müssen verhindern dem Genozid.
Ay, 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 ay. Ay 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 ay
ay ay ay ay ay ay ay.
La table ronde sur le journalisme à l'ère de MeToo vient tout juste de se terminer. Estelle Ndjanjo, qui l'a animée, nous rejoint pour revenir sur ce qui s'est dit, sur ce qui a été entendu et ce qu'il reste encore à questionner.
Bonjour, on est actuellement à la conférence des 40 ans de RSF et aujourd'hui on a avec nous Estelle Ndjanjo. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos motivations pour animer cette conférence aujourd'hui sur le journalisme à l'ère de MeToo ?
Alors, je suis journaliste radio, podcast, presse écrite. Je suis chroniqueuse sur RFI et pour le coup, mes sujets de prédilection, c'est clairement les discriminations, alors soit liées aux questions raciales ou de genre. Et c'est aussi pour ça que RSF est venu me chercher. J'ai écrit plusieurs enquêtes qui sont liées tout simplement aux violences sexistes et sexuelles et à l'intersection de ces questions aussi. Et alors, on m'a demandé d'animer une table ronde avec Lénaïque Bredoux, de Mediapart, Julia Foyce, donc journaliste, ex-journaliste de Radio France, et Rosé Ami, donc de Préparez-vous pour la bagarre.
Comment vous percevez aujourd'hui les liens entre le mouvement MeToo et l'évolution du journalisme ? Et en quoi ce mouvement a-t-il réellement transformé certaines pratiques professionnelles du journalisme et les formats et la manière dont on s'empare de l'information ?
Alors, le plus évident pour moi, je pense que c'est la place des victimes, de la parole des victimes dans les médias. Elle est devenue centrale ces dernières années. Et effectivement, la raison pour laquelle on a invité Lénaïque Bredoux, c'est parce que Mediapart a joué un rôle immense. On a parlé d'Adèle Haenel, mais on peut aussi parler des victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Il y a aussi Depardieu. Enfin, clairement, il y a eu un tournant. Les autres médias ont pris le pas quand ils ont compris que c'était un sujet non pas médiatique, uniquement médiatique, mais un sujet de société, et que la société était en train de bouger, que les mobilisations du 25 novembre étaient plus importantes, du 8 mars. Du côté de nos politiques, il y a eu une dépolitisation assez forte parce qu'il faut le dire, ça reste... Il y a eu ce qu'on appelle du féminisme washing aussi, hein, qui était assez important. Mais dans les pratiques, oui, je dirais que c'est ça. Après, ce qu'on décriait dans la table ronde, c'est qu'il y a quand même un boys club qui est toujours très important. C'est-à-dire que les instances décisionnelles dans les médias restent très masculins. Et aujourd'hui, quand on veut trouver une rédaction qui est féminine, ou féministe, c'est important de le préciser, ça ne signifie pas, avoir une majorité de femmes ne signifie pas que le patriarcat n'est pas présent aussi, ça c'est important de le préciser. Mais en tout cas, c'est les changements majeurs qu'on a pu voir.
En effet, pour rebondir sur le terme de boys club médiatique, vous évoquez souvent l'idée pendant la table ronde que les discours médiatiques peuvent consolider un système où les rapports de pouvoir restent dominés par le patriarcat. Comment ces discours contribuent-ils à reproduire ou renforcer ces dynamiques-là? Et aussi, à certains moments, normaliser certaines tendances qu'on va avoir sur les grands titres d'articles de presse.
Les médias sont avant tout un milieu professionnel très masculin. On est chez RSF. RSF, c'est un organisme qui d'investigation, de reporter, de guerre. C'est très masculin. Enfin, moi, j'ai été reporter correspondante chez Reuters à Dakar. Et je l'ai très vite vu, hein, les anciens, les routiers de l'information qui sont très masculins. En fait, il y a une manière de faire l'information selon eux. On peut prendre ça à la rigolade en parlant d'effectivement, comme Rose Lamy l'a très bien dit, de titres racoleurs sur il tue sa femme pour des grumeaux dans la pâte à crêpes, mais c'est aussi ne pas avoir d'empathie forcément d'arriver à reprocher parfois aux journalistes qui traitent les sujets de genre et qui veulent bien les traiter d'être trop dans l'affect, dans l'émotion. Alors qu'en fait on fait un travail factuel et c'est important de bien remettre ça à l'église au milieu du village, c'est-à-dire que quand une personne vient nous voir concernant un cas de violence sexuelle, on se fait aussi l'avocat du diable en tant que journaliste, hein. On essaie en fait de recouper les informations, de trouver d'autres témoignages, d'arriver à savoir si la victime était si tous les propos, les informations de son histoire est bien est concrète, enfin voilà, c'est la différence aussi avec des personnes qui peuvent avoir un autre agenda, mais en tout cas nous c'est comme ça que je vois le journalisme en tout cas à l'ère MeToo et qui essaie de lutter contre le traitement médiatique sexiste.
Comment en tant que journaliste vous essayez de naviguer entre hiérarchisation de l'information qui est au final aussi liée à vos limites éditoriales, mais aussi prendre en compte les questions éthiques parce que vous traitez d'histoires très particulières qui est celle des violences sexistes et sexuelle?
La hiérarchisation de l'information qui est la base de notre métier, c'est-à-dire toutes les informations qui tombent ne seront pas au JT de 20h ou du 13h ou à la une des journaux. Mais c'est une question qu'il aurait plus valu poser à Lénaïque Bredoux pour le coup, parce que c'est elle qui est big boss. Moi, je suis journaliste indépendante et j'ai envie de vous dire, je propose des sujets à des rédactions qui estiment oui ou non si c'est un bon sujet, si ça vaut la peine d'être traité. Et pour le coup, c'est pas moi qui suis décisionnaire de ça. Moi, à chaque fois, je propose des sujets, j'estime que c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des sujets qui sont passés sous la trappe. Ce que je disais pendant la table ronde, c'est que parfois, la personne n'est pas assez connue pour pouvoir faire l'objet d'une enquête, parce qu'on se dit oui, telle personne a fait ça, mais en fait, c'est qui? Ça n'intéresse personne. Et donc, du coup, on va plutôt s'intéresser aux dérives d'un milieu. Et ça, c'est un peu la solution. Donc il faut essayer d'être un peu acrobate, essayer de changer l'angle pour pouvoir faire en sorte que l'information remonte au contraire et soit mise en priorité.
Est-ce que vous pensez qu'en tant que journaliste, on doit se demander comment ce que j'écris documente ou reproduit un rapport de pouvoir ?
Alors ça, c'est aussi le travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que journaliste, on vit dans la société, on n'est pas... Enfin, Julia Foy le disait très justement, c'est qu'au final, on est humain et on est sur... Enfin, le journaliste se croit au-dessus. Donc en fait, déjà, à partir du moment où tu te crois omniscient et surtout que tu penses que tu es à la fin de la chaîne alimentaire intellectuelle et que t'as rien à te reprocher, c'est difficile de se remettre en question. Ça, c'est déjà un premier point, mais... déjà, je commencerai par dire qu'il faut déjà être indulgent avec soi-même. Parce que même quand on est une femme journaliste féministe, en fait, parfois, on peut reproduire aussi, sans le savoir, du sexisme. C'est aussi quand d'autres personnes... Alors, c'est cool si c'est bienveillant, mais d'autres peuvent aussi t'épingler de manière très violente sur les pratiques ou les mots que tu as pu aussi utiliser. Là, aujourd'hui, je dirais que on a quand même fait beaucoup d'avancées sur les sujets autour du sexisme. Je dirais que le vrai angle mort, pour moi, c'est autour du sujet autour du racisme. Il y a beaucoup, enfin, moi, j'arriverais beaucoup plus à trouver encore des biais racistes énormes, même dans les papiers les plus bienveillants sur des personnes où, en fait, c'est un impensé total. Aya Nakamura, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un à qui on a systématiquement déjà enlever sa féminité, c'est le fait d'être une femme, c'est-à-dire qu'on l'a systématiquement traité comme d'abord comme personne noire, c'est-à-dire que l'identité, quand on sait, il y a eu un traitement médiatique ultra violent sur elle, on l'a vu comme une personne noire avant tout qui ne représenterait pas, je mets des guillemets, la France ou l'identité de la France. Sa féminité, on l'a dit que c'était quelqu'un d'imposante, etc. C'est plutôt ça les angles morts dont je te parlais, c'est-à-dire que quand on va dénoncer ce genre de choses, on va pas dénoncer la misogynie noire dont elle est victime. Ça vient du fait que les journalistes peut-être qui traitent l'actualité ne vivent pas la misogynie noire ou ne sont pas renseignés sur le sujet. Et c'est aussi pour ça que je parle aussi d'indulgence aussi envers tout un chacun, parce qu'en fait, si on arrive aujourd'hui à pouvoir parler sur cette scène et avoir autant de monde, c'est aussi parce que tous on s'est instruit à un moment. Donc ça va venir, mais il faut aussi donner la place. Il faut que malheureusement on aille aussi arracher cette place au sein de l'actualité aussi, qu'on vienne aussi pousser nos sujets. Et ça, c'est difficile. Ça, j'ai pas la recette magique. Malheureusement, il faut tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir faire en sorte de publier des bonnes enquêtes et des bonnes histoires.
Comment vous avez évité d'essentialiser les victimes que vous traitez? Comment vous avez, par exemple, mis au centre de vos enquêtes l'intersectionnalité? Voilà.
J'ai écrit plusieurs enquêtes autour des violences sexistes et sexuelles ou des reportages. Et pour le coup, parce que aussi je suis une femme noire, féministe et antiraciste, l'intersectionnalité s'est faite automatiquement. C'est-à-dire que je suis attirée par les sujets qui sont pas traités. Et c'est aussi ça aussi qui fait... chaque journaliste est censé trouver sa singularité et trouver l'angle mort dans les sujets. Et moi, c'est à travers ça. Donc, pour ne pas essentialiser, c'est vrai, les victimes, ce que disait très bien Julia Foyce aussi, c'est qu'en fait, aller chercher l'identité en fait, de la personne, c'est pas juste une victime. Et d'ailleurs, on peut projeter tellement de choses sur ce mot. C'est redonner le fait que c'est avant tout une femme professionnelle. On peut dire qui a fait beaucoup de voyages, qui est mère, qui a fait des films. En fait, réinscrire dans toute son humanité aussi, et c'est ce qui permet d'éviter juste de parler de d'une personne. Et encore une fois, c'est atroce, parce qu'en fait j'ai l'impression de vilipender le mot victime, alors qu'en fait il y a des personnes qui se sont battues pour pouvoir se réapproprier ça aussi. Donc c'est un équilibre aussi à essayer de trouver, et on peut trouver cet équilibre uniquement en parlant aux personnes qu'on interviewe, en leur demandant aussi le cadre dans lequel ils seraient à l'aise en fait de travailler. Et c'est d'abord la communication et bien s'informer.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell,
Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth, the revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Radio Campus Paris. Après la table ronde sur la concentration des médias par les milliardaires, Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, s'arrête à notre micro pour prolonger la réflexion.
J'ai longtemps été rédacteur en chef de Street Press, ça veut dire relire les articles, animer la conférence de rédaction, ce moment où on choisit quel sujet on traite, sur quoi on va enquêter. J'ai longtemps fait ce travail-là, et puis à un moment pour qu'il y ait plus une direction plus pluraliste, il y a eu d'autres rédacteurs en chef qui ont été nommés, Inès Belkacem, Mathieu Bidan et aujourd'hui Christophe Cécile Garnier. Et moi, mon travail aujourd'hui, il est de développer le média, de monter des projets pour qu'on fasse des plus gros projets, des plus grosses enquêtes qui aient plus d'impact et qu'on trouve des moyens de le financer. Notre première source de revenus, c'est les dons. C'est à peu près 60% de nos revenus. À côté de ça, il y a un peu du mécénat de fondation. C'est des riches particuliers qui ont des fondations et qui font du caritatif. Et une partie de leur caritatif, c'est soutenir la pluralité de la presse et Street Press. En plus de ça, il y a un petit peu d'aide publique. Donc on reçoit un peu d'aide française et un peu d'aide européenne. Et la dernière source de revenus, c'est des revenus un peu commerciaux, publicitaires. Par exemple, on a une chaîne de YouTube qui fait pas mal de vues. Et tout le monde le sait, ça monétise un peu YouTube. Donc on prend un peu de sous comme ça.
Depuis toutes ces années, vous n'avez fait que grandir. Est-ce que vous avez des projets en cours qui...
Ouais, on a toujours plein de projets. Street Press, c'est un média qui a commencé tout petit et sans moyens. C'est-à-dire Joe, quand il a créé Street Press, il a fait un crédit à la consommation parce qu'aucune banque voulait lui prêter d'argent pour monter un média parce que ça rapporte pas d'argent. Et puis, on a développé le média, on a rentré les donateurs, etc. Et aujourd'hui, on a la chance de grandir. Et si on est content de grandir et si on veut continuer à grandir, c'est pas juste pour être le futur Elon Musk ou Bernard Arnault. C'est parce qu'on pense que dans une société où la plupart des médias appartiennent à des milliardaires, il faut qu'il y ait une presse indépendante qui soit forte, qui fasse de l'enquête, qui donne la parole à ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Pour ça, on a des nouveaux projets. On s'est lancé dans un projet autour du thème de la bataille culturelle, avec plein de choses très concrètes. En février ou mars, on va sortir un livre sur les groupuscules d'extrême droite. On va faire une tournée dans les territoires où l'extrême droite est la plus forte, avec des partenaires. On va aller avec Mediapart, on va aller avec Salomé Saké, on va aller avec La Dernière, l'émission de Guillaume Meurice sur Nova, en tournée partout en France, pour aller échanger avec les gens sur ces territoires où l'extrême droite est très forte. Parce que nous, on est à Paris, mais en réalité, la France, c'est pas que Paris, quoi. Il faut se bouger, aller rencontrer les gens, écouter ce qu'ils ont à dire, aller sur le terrain, faire des reportages et des enquêtes. C'est deux exemples de projets, mais il y en a plein d'autres.
Justement, on s'inquiète de cette concentration des médias, mais vous, justement, on avait Disclose avec Ariane...
Lavrieux,
qui était là. Donc, toute cette sphère des médias indépendants, et aussi notamment les réseaux sociaux qui voient naître des médias indépendants avec Instagram, YouTube. Est-ce que tout ça, ça peut lutter à terme, ça permet de lutter contre cette concentration qui en plus peut avoir un lectorat ou un audimat assez vieillissant quand on voit que c'est à la télé ou dans la presse écrite?
Bien sûr. On a à la fois un gros problème, c'est que les vieux médias, ils sont de plus en plus fragiles économiquement. Et plus on est fragile, plus on se retrouve menotté à ceux qui ont beaucoup de fric. Donc c'est Bernard Arnault, donc c'est Vincent Bolloré, donc c'est Saadé, tous ces gens-là. Et donc ces médias-là sont de moins en moins indépendants parce qu'ils sont de plus en plus fragiles économiquement. Mais dans le même temps, parce que les gens se rendent bien compte que ça pose problème, il y a des médias indépendants qui se créent et qui trouvent leur audience. C'est le cas de Street Press, mais c'est aussi le cas de Mediapart, c'est le cas de Blast, c'est le cas de Disclose, c'est le cas de Reporter, c'est le cas de Vert. Il y en a plus d'une centaine, sans compter tous les gens qui, sur les réseaux sociaux, font un travail journalistique sur Instagram, sur YouTube, qui sont des nouvelles formes de médias. Et donc, c'est des contrepoids qui sont importants, qui sont utiles pour la démocratie et qui faut encourager, à mon avis, et soutenir.
Est-ce que l'information n'a jamais été aussi libre et n'a jamais été aussi, accessible à tous ?
Je pense que ça n'a jamais été aussi facile de se lancer. Et moi, j'encourage tous les gens qui veulent le faire. T'es à Radio Campus, c'est beaucoup des étudiants, des bénévoles qui viennent et qui se lancent et qui apprennent le métier comme ça. Et ça, c'est super. Il y a des gens qui créent des médias sur Instagram et c'est super. Et il y a des très très grands médias qui sont créés comme ça. L'histoire de Grunt, le média arabe, qui aujourd'hui a un festival qui était sold out il y a 3 semaines, c'est ça. C'est une bande de potes qui s'est mis à enregistrer des freestyles de rap, puis à faire de la critique musicale, puis à créer un vrai média en partant des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, on peut commencer comme ça. Donc c'est, tout le monde peut y aller. Par contre, passer le cap d'après, c'est-à-dire passer de on est bénévole, on fait un truc cool, à se professionnaliser pour pouvoir tenir dans la durée. Parce que quand on a 20 ans, 22 ans, on fait ça bénévolement, puis à un moment, il faut bien gagner sa croûte. Et on a besoin de journalistes professionnels à qui on donne du temps pour faire leur métier de journaliste. Et ben ça, c'est de plus en plus compliqué, sans tomber aux mains des grandes entreprises et des plus riches. Et c'est là où le modèle des médias indépendants comme Street Press et comme d'autres qui fonctionnent grâce au soutien des lecteurs, c'est un modèle qui me semble très sain.
La capacité de concentration des plus jeunes diminue, notamment avec les algorithmes TikTok ou Instagram, où tout va très vite, où on consomme très vite.
Alors oui, c'est une réalité qu'il y a des études qui le montrent, que TikTok, Instagram ne favorisent pas la capacité de concentration des jeunes. Après, c'est un peu trop facile de dire, quand on est des médias, de dire, franchement, si les jeunes ne nous regardent pas, c'est qu'ils sont trop cons. Parce qu'il y a un peu ce message-là derrière, de dire, les vieux là qui nous lisent encore, ils en ont dans le crâne, donc eux, ils sont capables de suivre ce qu'on raconte, mais les jeunes, ils sont trop cons, donc ils sont pas capables de se concentrer sur ce qu'on leur propose. Non, il faut se poser des questions, se remettre en question en tant que médias. Nous, on a une chaîne YouTube sur laquelle on fait des formats longs, on fait des documentaires qui font plus d'une heure, on fait des podcasts, on fait des reportages, on fait des enquêtes vidéo qui sont des formats longs et qui marchent très très bien. On fait plus d'un million de vues par mois sur cette chaîne YouTube sur des sujets complexes, y compris on a fait, je sais plus de 100 000 vues sur une enquête économique sur Altice et Patrick Drahi. Donc en fait, à partir du moment où la façon de parler, les codes et les sujets intéressent les gens, eh ben ça marche. Et faut pas croire que ce qui intéresse les gens est que des sujets qu'on qualifie comme futiles, qui sont du divertissement. Et je suis le premier à consommer du divertissement, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire des enquêtes économiques, des enquêtes sur l'extrême droite qui intéressent les jeunes et qui marchent très très bien. C'est aussi se remettre en question dans la forme, dans le ton, aussi dans les personnes qui font les sujets. Si c'est que des gens de 50 ans et plus qui font les sujets, que des blancs qui habitent dans le 11e arrondissement qui font des sujets, bah, y a une partie de la France qui ne se reconnaît pas dans ces incarnants-là et dans ces journalistes-là. Donc il y a aussi la question d'ouvrir les médias à des gens qui ont des profils différents. Tous ces enjeux-là viennent aussi des médias qui doivent se remettre en cause. La question, c'est comment on fait pour parler aux gens qui regardent plus le 20h de TF1 ? Mais la vérité, c'est que l'âge moyen du téléspectateur de 20h de TF1, c'est pas celui d'une maison de retraite, mais presque. Donc il faut sortir de ces bulles-là et aller intéresser les plus jeunes, les gens des milieux populaires, les gens de territoires ruraux, etc. Mais c'est pas aller les chercher, c'est juste faire un média qui leur ressemble, qui s'intéresse à leurs préoccupations. C'est pas nous qui allons les éduquer, c'est juste nous, ou aussi qui nous éduquons pour faire du contenu qui soit leurs problèmes, leurs enjeux, leur quotidien, parce que c'est l'un des rôles des médias.
40 ans après sa création, Reporters sans frontières continue d'alerter, de protéger et de défendre celles et ceux qui informent, parfois au péril de leur vie. Au fil des débats et des échanges, une conviction revient. Sans journalisme libre, il n'y a pas de démocratie vivante. Interview, Anaïs Mesba et Félix Le Guyadé. Voix off, Francesca Vicente et Aude Labelle. Montage, Philippe Fischer. Coordination, Aude Labelle.
Radio Campus Paris.